Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel.
En fait, je pense qu'inconsciemment, on a des rêves. C'est là. Et c'est juste qu'on n'y croit pas, on se dit non, mais c'est pas possible, je peux pas vivre de ça, c'est compliqué, des responsabilités, etc. Mais si on visualise et on se donne vraiment les moyens, en fait, Allah, il facilite, il nous donne les opportunités. Mais il faut avoir cette vision lointaine. Si on ne sait pas où on va, on va se perdre en route.
Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Ibtihal.
Alaikum salam wa rahmatullah.
Comment ça va?
Ça va, alhamdulillah, et toi?
Ça va, super. Ça va super, écoute. On a essayé de faire cette interview un peu plus tôt, il y a quelques mois.
Ouais.
Malheureusement, ça a dû être reporté, mais alhamdoulilah, on a réussi à la faire finalement, je suis content.
Alhamdoulilah, avant la fin de l'année.
Avant la fin de l'année, voilà. Bah, ça ne sortira peut-être pas avant la fin de l'année, mais ouais, au moins, ce sera fait. Tout d'abord, bah, merci d'avoir accepté mon invitation. On va parler de, évidemment, ton parcours, on va parler de tes investissements dans l'associatif et... Puis récemment, tu as rejoint le Secours islamique, donc on en parlera aussi, Inch'Allah. Pour commencer, petit Hel, je vais te demander de te présenter rapidement.
Ça marche. Alors, Ibti Hel, d'origine parisienne, ethniquement marocaine-tunisienne. J'ai 29 ans. Dans mon parcours, en fait, je suis ingénieure en énergie. Et ensuite, j'ai un peu changé, bifurqué un petit peu. Dans le développement durable et l'humanitaire. Et voilà, après j'ai eu l'occasion de vivre et d'avoir des expériences dans pas mal de pays différents. Alhamdulillah. Et me voilà aujourd'hui back to Paris, de retour à Paris au Secours islamique.
Au Secours islamique, mashallah.
Ouais.
Quand tu étais petite, tu voyais déjà ton intérêt pour tout ce qui est associatif, humanitaire?
Quand j'étais petite, déjà moi je ne sais pas ce que je voulais faire. Et j'ai toujours été baignée en fait dans le monde associatif via ma mère qui était tout le temps dans le monde associatif. Elle m'emmenait toujours avec elle, même que ce soit les petites madrassas, les mosquées du coin pour donner des cours, etc. Donc j'ai toujours aimé être là, aider. Et du coup, c'est un peu normal pour moi de revenir dans l'associatif depuis que j'ai commencé mes études, on va dire, et en
Ouais.
faire un métier hein, ensuite.
Donc tu étais ingénieur, tu disais? Tu as fait des études en quoi exactement?
Ouais, donc 17 ans, au terminal, il faut choisir sa filière. Et
Dans quelle ville tu étais?
j'étais à Paris. Donc moi, j'ai
Ouais.
fait toutes mes études à Paris jusqu'au bac.
Ok.
Et pour moi, c'était soit ingénieur, soit docteur, soit avocat. Voilà quoi, les trois
Qu'est-ce que
métiers.
les parents poussent à faire?
C'est ça. Et j'étais assez bonne en sciences, toute
Ouais.
matière scientifique. Et moi, même moi, j'aime beaucoup les maths, etc. Donc, ça me paraissait logique de faire une école d'ingénieur. Et du coup, je suis partie à Strasbourg et j'ai fait un génie énergétique et climatique.
Ok. Pourquoi génie énergétique et climatique?
Ouais, en fait, un peu aussi au hasard. Donc, moi, j'arrive à l'école, donc il y a les deux premières années en prépa intégrée. Donc, c'est du tronc
Ouais.
commun et ensuite, il faut choisir sa spécialité. Donc, il y avait quoi? Il y avait mécatronique, mécanique, informatique, civil, tout ça. Ça ne m'intéressait pas vraiment. Et j'ai eu de la chance, dans cette école, il y avait énergie. C'était un peu la filière un peu plus intéressante, on va dire. Du coup, voilà, c'est un peu le hasard dans... Pas le hasard, c'est assez intéressant, mais ouais. Et ça me plaisait pas mal, en fait.
D'accord, ok. Et de fil en aiguille, tu t'es donc réorienté, c'était après tes études ou pendant tes études?
Alors, j'ai fini mes études et j'ai travaillé en tant qu'ingénieur
Ouais.
en conception énergétique dans le bâtiment pour un bureau d'études assez gros ici sur Paris. C'était intéressant, enfin, franchement, j'ai eu de la chance. J'ai fait des beaux bâtiments, que ce soit Château de Versailles, que ce soit la Bourse, la Canopée, pour les gens qui vivent à Paris, ils connaissent.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'au bout d'un peu plus d'un an, j'ai commencé à me poser des questions, à me dire, c'est pas ça que je veux faire toute ma vie. être assise derrière un bureau, même si, bon, des fois, on allait un peu sur le chantier, c'était assez sympa. Et surtout, alors, j'étais dans un bureau, on était quatre, j'étais déjà la seule fille de mon département, et je voyais un de mes collègues qui comptait, en fait, ses années avant la retraite, et ça faisait déjà 20 ans qu'il était dans la boîte. Et moi, en fait, il était vraiment mais en face de moi et il se plaignait tous les jours. Et moi, je me disais, je veux pas devenir comme ça. Il faut absolument que je parte. Et c'est toujours le piège. Si on reste trop longtemps dans une boîte, après, c'est difficile de partir et de changer ses habitudes. Et j'avais envie de faire un truc qui était plus aligné avec mes valeurs. Donc, j'ai quitté.
Donc c'est grâce à lui un peu en fait.
Ouais, c'est grâce à lui. Il y a plein de choses. Subhanallah. Il y a toujours des choses, des discussions, des rencontres qui nous influencent dans nos choix de vie après. Des fois, on ne s'en rend pas compte.
Alors, tu décides de partir, tu te dis que c'est pas fait pour toi. Tu as un process de réflexion, j'imagine, où tu te demandes qu'est-ce que tu peux faire à la place, où est-ce que tu dois reprendre des études, est-ce que tu peux directement enchaîner sur autre chose. C'est quoi ta réflexion à ce niveau-là?
Grosse, grosse réflexion. Ça m'a pris 3 ans hein, pour vraiment me mettre sur le chemin qui en fait me faisait rêver, qui était vraiment aligné avec ce que je voulais faire. Donc, j'ai voyagé, je me suis vidé l'esprit, parce que c'est vrai que moi j'aime beaucoup voyager et ça me permet de me ressourcer et de réfléchir et de voir en fait, bah, il y a beaucoup, beaucoup de métiers. Des fois, je regardais, j'étais comme ça dans la rue, je voyais un vendeur de cassettes de jeux vidéo et je me disais, bah, en fait, ça c'est un métier, la personne vit de ça, quoi. Et
Elle a l'air heureuse.
c'est ça. Et nous, on n'en sait rien. Quand tu es en terminale, tu peux pas dire je veux être vendeur de cassettes de jeux vidéo. Et donc, ça m'a permis de, voilà, de réfléchir, de me dire bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je me suis posée, j'ai fait mon Ikigai aussi. Pas si tu connais.
Bien
Ouais.
sûr, bien sûr. L'intersection entre ce que tu aimes, ce que tu sais faire, ce que le monde a besoin et
Ouais.
ce qui peut te faire gagner de
Ce
l'argent.
pourquoi tu peux être payé. Ouais, voilà. Et c'est vrai que moi j'ai plusieurs ikigai. Donc à un moment je voulais être photographe, reporter, faire des documentaires, prof. Il y avait pas mal de choses. Et
Gros travail, hein, l'ikigai, ça prend du temps, hein. Il faut
ouais.
s'asseoir, il faut prendre des notes. Par rapport à ça, par rapport à l'ikigai, comment tu as découvert ça? C'était quoi le process? Voilà, tu as pris une feuille blanche, tu t'es assis, tu as réfléchi, ça a pris des semaines, des mois, des années.
Ouais, j'avais rencontré ici sur Paris une sœur qui nous avait. C'était pendant un événement avec EMF, étudiants musulmans de France. Elle nous avait fait un topo sur l'ikigai. C'est là que j'avais découvert. Et ensuite, j'avais fait mes recherches dessus. Et après, oui, voilà. Je prends une feuille blanche, je commence à écrire tout ce qui me passe par la tête. Et je reviens dessus, même 1 an, 2 ans plus tard. Parce que ce que j'ai fait après, c'est je me suis un peu coupée de la vie, de la dunya. Je suis partie pendant 1 mois, j'ai fait des cours en sciences islamiques. Et du coup,
C'est où ça?
c'était en Allemagne.
Avec quelle
Et
organisation?
c'était l'Académie islamique de Hambourg.
Comment t'avais trouvé ça?
J'avais trouvé avec
Je pose
des
beaucoup de questions,
connaissances.
hein.
Oui, j'avais trouvé avec des connaissances, mais ce problème-là, en fait, c'était même pas prévu. C'était quelqu'un m'en a parlé, je lui ai envoyé ma candidature, et après, on m'a dit: Bon, bah, c'est bon, t'as accepté, dans 3 jours, tu vas là-bas. J'ai dit: Ok, pas de problème, j'ai fait mes
C'était quoi
bagages.
les critères de candidature et de sélection et le programme?
Il y avait pas mal de critères. Après, il y avait déjà l'âge que moi j'avais dépassé en plus, et après, il n'y a pas vraiment de gros critères. Il fallait juste avoir fait des études. Et ensuite, le programme, c'était oui, voilà, tout ce qui est Coran, Tajweed, tout ce qui est fiqh, akhlaq, les principes
Comportement,
ouais, du début, en fait, des sciences islamiques. Et puis même au-delà de ça, être entouré par des personnes qui ont un peu le même but, se reconnecter à Allah. Donner de sa vie, se lever tous les matins, prendre le bus et aller prendre des cours et apprendre et retourner le soir et prier ensemble, etc. C'était une belle expérience pendant 1 an. Après, je suis
C'était
retournée
un
sur
an.
Paris.
Machallah.
Ouais.
J'ai entendu un mois tout à l'heure, non? C'était un an, du coup.
Ouais, un an.
Ok. À ce moment-là, en fait, tu savais pas quoi faire, ou tu savais plus ou moins, ou tu t'es dit, j'ai besoin de ce temps-là pour moi, pour ma spiritualité.
Ouais, bah, je ne savais pas quoi faire, j'avais fait mon ikigai, cette opportunité est venue. Moi, en général, je dis jamais non aux opportunités. Et alhamdoulilah, ça m'a certainement fait du bien aussi pour revenir avec la tête un peu plus focus,
Un peu de
concentrée sur
recul. Ouais.
ouais, qu'est-ce que je veux faire plus tard, quoi.
Et c'était en anglais du coup ou en allemand?
Non, moi, je parle pas l'allemand.
Ouais, là je me disais du coup.
Mais...
Ouais. Ils ont un programme en anglais en Allemagne.
Ouais, anglais, arabe, il y avait plusieurs langues, on venait de plusieurs pays différents. Okay, c'était assez intéressant.
D'accord. Ok, bah, c'est intéressant ça. À la fin de ces 1 an, je sentais que tu t'es un peu transformé, qu'il y avait un changement en toi.
Ah oui, clairement, ça change. De toute façon, chaque expérience, vivre à l'étranger avec d'autres personnes, et vraiment déjà apprendre plus sur ma religion et sur moi-même. Et voilà, ça me donnait encore plus de motivation de me dire le travail que je vais faire, peut-être toute une vie ou pas. Après, je ne pense pas qu'on, en tout cas pour ma part, qu'on doit faire le même travail pendant toute une vie, doit être vraiment aligné avec mes valeurs et mes croyances. Donc, quand je suis revenue, ça m'a beaucoup aidée, même si ça m'a encore pris un an. Pendant un an, j'étais à Paris, j'avais pas de travail, j'avais pas
Oui.
d'études, je savais pas encore quoi faire et c'est là où je te dis, j'ai repris l'ikigai et j'ai essayé de le faire fonctionner, de me faire mes recherches, etc. J'ai
Ouais.
beaucoup même candidaté sur Paris, j'ai eu beaucoup d'entretiens en tant qu'ingénieur toujours, hein. Mais on arrive toujours à cette question avec le
T'as entendu
hijab.
le tonnerre là? Non.
Ah, c'était le
Non.
tonnerre.
Ouais, ça c'est un gros tonnerre là, à côté de chez moi. Ouais, bah pardon, je t'ai interrompu, vas-y.
ouais, c'est vrai que c'est impressionnant, les tonnerres d'Asie du Sud-Est. Oups. Attends. J'enlève ça parce que sinon, ça va faire...
Ouais.
Alors, je disais quoi?
Tu disais, ouais, du coup, tu as beaucoup postulé.
Ah oui.
Ouais.
L'histoire du hijab, voilà. Ça passe pas, hein, même si on est ingénieur, et on peut s'y rechercher une femme, jeune. Les entretiens, ça se passait toujours bien. Et on posait des questions des fois. Est-ce que vous allez l'enlever? Est-ce que vous allez mettre derrière? Nanana, c'est dangereux.
Ouais, c'est dangereux. dirais une arme blanche.
Ouais, voilà. Et moi, ça, c'était niet. Vraiment,
Ouais.
c'est vous m'acceptez comme je suis ou au revoir. Et
Ouais.
subhanallah, bah. C'est là où je me suis dit, bah voilà, j'ai fait tout mon possible pour rester dans ce métier, pour rester en France, pour travailler en France. Mais au final, voilà, on ne veut pas de moi. Donc j'ai continué mes recherches jusqu'à ce que j'ai trouvé un autre master.
Ouais, d'accord. Donc, tu as trouvé un autre master. Parce que tu as dit que tu avais fait l'ikigai, mais dans tes premiers ikigai, c'était pas incompatible avec tes compétences actuelles. Est-ce que tu, enfin, ton diplôme, quoi. Tu gardais ton diplôme dans ton savoir-faire.
Oui, de toute façon, je pense que on peut toujours garder tout ce qu'on a appris. C'est vrai que des fois, on me pose la question, ah, mais t'as fait ingénieur, c'est pour rien. Et
Ouais.
moi, mais pas du tout.
Ils ont
Au
raconté la vie,
contraire.
eux. Je...
Déjà, c'est quoi un ingénieur? En fait, un ingénieur, on nous apprend juste à fix the issues, régler les problèmes. Je sais plus comment on dit, problem solving. Ouais.
Résoudre des problèmes,
C'est ça. On nous apprend à
ouais.
résoudre les problèmes de manière rapide, quoi. Et en vrai, on est tous ingénieurs. Enfin, c'est juste un titre. Mais non, au
Ouais.
contraire, je l'utilise dans mon travail et même, on va voir par la suite, mais je l'ai utilisé dans les expériences que j'ai eues avant ce travail-là et même un petit peu pendant ce travail. Donc, c'est quelque chose
Ouais.
qui reste, quoi.
Bien sûr. Tu as commencé à poser des questions sur exactement où est-ce que tu pouvais t'orienter pour autre que l'ingénierie.
Ouais, alors bah, c'est là où vient. Donc, pendant que je réfléchis à cet ikigai et que je mets tout sur un papier et que je rencontre pas mal de gens, parce qu'en attendant, je voyage, je rencontre des gens et je m'engage pas mal dans tout ce qui est associatif. Donc, moi, depuis que j'avais 18 ans, donc, quand je suis partie à Strasbourg, j'ai commencé à intégrer Étudiants musulmans de France et ensuite intégrer ou aider d'autres associations, que ce soit des maraudes, etc. Et là, c'était en été, on m'appelle, on me dit, Tiel, ça te dit Paris-Marseille à vélo. Je dis, mais j'ai pas de vélo. C'était juste après le Covid,
Ouais.
l'été du Covid. Et du coup, je dis, vas-y, je suis chaude. J'achète un vélo. C'était un peu difficile de trouver un vélo à cette période. Et on est parti. Et c'était avec l'asso Sakana, donc, qui
Sakana.
est une asso de jeunes. Et moins jeunes, hein, musulmans, qui sensibilisent en fait la communauté pour éveiller leur conscience écologique. Et du coup, c'était ça vraiment le but de notre périple. Au-delà de l'effort physique, du challenge physique, mental, etc., il y avait cet aspect de sensibiliser les communautés, parce qu'on s'arrêtait à chaque fois dans des mosquées pour
Oui.
discuter avec les personnes sur place. Et de leur montrer, bah voilà, regardez, on voyager sans émettre aucune émission de CO2, voyager lentement, on n'a pas beaucoup de choses derrière sur nos vélos, on profite des paysages, on rencontre des gens, on est assez flexible. Et donc, tout ce côté minimalisme, voyager lentement et voyager sans émission de carbone, sans prendre aucune fois ni le train, ni la voiture, ni rien du tout, et traverser la France. Et ça a été un très beau, très très belle expérience pour moi. Et même pour nous, ça nous a soudés, on a appris beaucoup de choses. Voilà, on vit H24 ensemble, on rencontrait aussi pas mal de gens. Il y avait des imams des fois qui nous suivaient sur 50 km, il y avait des tatas, on était tout le temps très bien accueillis. On est allé dans la France profonde aussi, donc il faut savoir qu'ils voient débarquer 10-15
Barbu et voilé.
personnes, ouais, barbus, hijab, etc. Et en fait, ils étaient super sympas. Il n'y avait pas
Ouais.
cette islamophobie que j'avais vécue dans le travail,
OK.
en tout cas dans ma recherche d'emploi. Et du coup, quand je suis rentrée, je me suis dit, ah oui, moi, ça m'a réveillé aussi ma propre conscience écologique. Et c'est là où je voulais faire quelque chose qui était en lien avec développement durable, environnement, rester dans l'ingénierie, mais dans ces domaines-là. Et ce serait top si c'est dans l'humanitaire. Et c'est là que j'ai recherché, en fait, sur Internet, et j'ai vu qu'il y avait deux masters qui existaient, un en Angleterre, un aux États-Unis. Et je regarde, je vois que la date, elle est passée. On était en août, la date d'application de candidature est passée. Je me
Oui.
suis dit, je candidate quand même, j'envoie, je force un peu, j'envoie un email, je dis voilà, ça m'intéresse grandement, etc. Et c'était juste avant qu'il y ait le Brexit. Donc, c'était la
Ouais.
dernière année où je pouvais profiter de pouvoir aller en Angleterre et étudier avec des tarifs anglais et
Préférentiel.
européens. C'est ça. Et voilà, ils m'ont accepté et je suis allée un mois plus tard.
Ok.
Donc, le master, ça s'appelait Humanitarian Engineering and Sustainability. Donc, ingénierie humanitaire et développement durable. C'était un an.
Ok, d'accord. Et donc 1 an, l'Angleterre, un autre contexte, notre culture. Qu'est-ce que tu retiens
Ouais.
de cette expérience?
C'était intéressant. J'habitais vraiment, on va dire, dans la campagne. Ouais, c'était à Warwick. C'est à côté de Coventry, à côté de Birmingham. Donc, il n'y a vraiment
Okay.
pas grand-chose. Et c'était un contexte de Covid. Je suis arrivée, il y avait confinement. Je
D'accord.
n'avais pas le droit de voyager.
Ouais.
Je ne pouvais même pas prendre un train pour aller à Londres ou rencontrer mes amis. Donc, c'était assez intéressant et ça m'a aussi appris à vivre avec moi-même, quoi. Seule, ne pas bouger, me concentrer sur mes études et me concentrer sur moi-même.
D'accord. OK. Très bien. Donc, tu finis ton diplôme visiblement avec succès. Et tu commences déjà à postuler avant la fin, j'imagine, un petit peu.
Ouais, alors. Même avant de finir, j'avais vu une offre passer aux Nations Unies
Oui.
pour un stage. Donc, j'avais
OK.
postulé. Et ils m'ont accepté. Donc, ce qui fait que, en même temps que j'écrivais ma thèse, j'étais partie au Danemark pour faire un stage. Donc, même avant d'être diplômée. Et donc, c'était un super poste. C'était ingénieur énergie verte. Au sein des Nations Unies, le programme de développement, le NDP, à Copenhague. Donc là, c'était pour moi l'offre parfaite parce que ça alliait le côté ingénieur et le côté développement humanitaire.
Oui, ok, très bien. Et ça se passe bien?
Ah, c'était trop bien. Déjà, la vie dans les pays du Nord est super intéressante, super calme. Et vraiment, moi, j'ai toujours une bonne vibe, en fait. Quand j'étais là-bas, je prenais mon vélo, j'allais au travail, qu'il fasse même froid ou qu'il vente. Les pistes cyclables là-bas sont hyper sophistiquées.
Ouais.
Et
Donc là, tu savais
oui,
faire du vélo, là,
c'est...
tu avais l'habitude, tu avais
Ouais.
l'expérience.
Ça y est, moi j'adore me déplacer à vélo et
Ouais.
Copenhague c'est la ville parfaite pour ça. C'est pas trop grand, pas trop petit. Il y avait aussi une bonne communauté et au travail c'était top. C'est assez flexible. On était une équipe de jeunes. On venait de plein de pays différents. Je crois qu'on était une équipe de 18. Il y avait 16 nationalités différentes. On rencontre beaucoup de gens qui viennent de partout et c'est hyper intéressant de voir le parcours des personnes. Comment on a fini aux Nations Unies, aussi comment c'est de travailler à l'intérieur et être vraiment dans ces institutions. Et puis c'est bien aussi pour le CV. Donc, ouais, non, c'était bien. Donc, c'était 6 mois. Et
Ok.
ensuite.
C'était un stage de fin d'études ou c'était en plus à la fin de tes études après?
Ouais, c'était en plus pendant mes études.
Pendant tes études. Ok.
Ouais.
T'étais au Danemark, tu faisais tes études à distance?
Ouais, en fait, c'était la période, j'avais fini les cours et la deuxième
D'accord.
partie de mon cursus, c'était écrire ma thèse.
Ah, ok.
Du coup,
Donc,
il n'y avait
ouais.
pas forcément besoin que je sois en Angleterre à ce moment-là. Donc,
Ok.
j'écrivais ma thèse et en même temps, je travaillais
Ok.
en tant que stagiaire.
Ok, très bien. Et sans indiscrétion, comment est-ce que tu faisais pour financer un peu ces études, tout ça? Il y avait des bourses, des choses comme ça, ou tu. C'était
Alors,
difficile?
en général, tous les voyages que j'ai pu faire dans le cadre de mes études
Ouais.
ou dans le cadre de mes études, j'ai toujours eu des bourses. Donc moi, j'avais fait un stage de fin d'études en Thaïlande, j'avais une bourse et j'étais nourrie logée. Enfin, j'étais logée.
Ouais.
Après, nourrie, ça coûte pas cher.
Ouais.
Pareil, quand j'ai fait un échange au Canada, j'avais une bourse. Et quand j'ai fait mes stages en Angleterre, en Chine, etc., il y avait une bourse. Et du coup, par contre, pour aller étudier, faire le master en Angleterre, là, fallait mettre les mains dans les poches parce que leurs études, c'est cher.
Ouais.
L'éducation, le système éducatif, ça reste un business.
Ouais.
Donc là, j'ai utilisé les économies que j'avais faites quand j'avais travaillé un an en tant qu'ingénieur.
OK.
Donc, ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas travaillé avant. Et ensuite, ouais, Danemark, etc. Bon, je suis stagiaire, mais j'étais payée. Donc,
Ça aide largement, ouais, pour
ouais, c'était un
l'essentiel.
petit salaire, mais ça permettait de payer le logement. Même si la vie là-bas est très, très, très chère. Un kebab, c'est 12 euros à peu près. Donc,
Mais ça va, ça fait plaisir.
ouais. Ah, toi, chez nous,
Non,
c'est 7 euros déjà et on est
je
choqués.
plaisante. C'est cher, 12 euros. Même à Singapour, c'est moins cher que ça. Alors que. Donc, tu finis tes études. Là, tu cherches autre chose, j'imagine. Enfin, ou peut-être tu as essayé de rester sur long terme à l'ONU, ou parce que ça doit être difficile peut-être de rester long terme, ou chercher autre
Ouais,
chose.
non, je voulais bien rester un peu plus longtemps. Surtout que pour moi, 6 mois, c'est pas assez. On commence vraiment à être bon dans son métier, comprendre comment ça fonctionne, les procédures, etc. Mais il n'y avait pas forcément d'opportunité à ce moment-là. Et surtout, le service où j'étais, ils prennent des stagiaires tous les 6 mois. Donc,
Ouais.
ça leur fait une main-d'œuvre facile et pas très chère. Mais j'aimerais bien, pourquoi pas. Dans le futur, après, je sais pas, parce qu'une fois que j'ai goûté maintenant à l'ONG, je sais pas, moi je trouve que c'est un peu plus à taille humaine et plus aligné avec ce que je suis.
Ouais. Ouais. Donc juste après, en fait, c'est là que tu rejoins l'ONG, Secours islamique.
Ouais, donc après, je rentre en France,
Ouais.
je cherche du travail, donc j'avais pas trouvé tout de suite, et c'est là que je rejoins Secours islamique.
Ouais.
France, donc le CIF, en tant que chargé de mission environnement, climat et genre.
Ok, tu peux nous décrire en détail un petit peu, peut-être avant de nous présenter l'ONG ou l'association, je ne sais pas comment on dit,
Ouais.
et après parler un peu plus de ton rôle en détail.
Le Secours islamique France est une association assez connue en France. Ça fait 30 ans qu'elle existe. Et ça a commencé surtout avec des aides sociales en France. Pas mal de personnes peuvent donner leurs vêtements. Par exemple, il y a une friperie, il y a des épiceries solidaires en place, des distributions, des maraudes. Et ensuite, depuis une bonne dizaine d'années, même plus, pardon, à peu près 15 ans, ils ont commencé à se lancer dans l'humanitaire international. Aujourd'hui, ils interviennent dans plus de 15 pays, surtout en Afrique, Moyen-Orient, Asie. Et donc, c'est une association humanitaire comme les autres, on va dire, françaises, qui, enfin, c'est au-delà du nom, c'est l'aide provient à. En fait, le slogan, c'est la solidarité. La solidarité. Excuse-moi, tu entends le.
Ouais, c'est fini, c'est pas grave.
Ok. Alors, en fait, leur slogan, c'est la solidarité, peu importe la religion, le genre, l'ethnie, l'âge, etc. Donc, ça aide toutes les populations vulnérables dans le monde entier, qui répond soit aux crises, comme on l'a vu par exemple au Pakistan, ou aux des programmes un peu plus de développement. Et donc, dans le monde de l'humanitaire, ça fait que très récemment qu'on commence à parler de l'impact environnemental. Quel est l'impact des humanitaires quand ils se rendent sur le terrain pour amener une aide, que ce soit l'empreinte carbone ou on ramène des déchets avec nous, ça reste dans des pays qui n'ont pas forcément les infrastructures au niveau de la gestion des déchets, etc. Donc, c'est une question qui commence à émerger. Et de là, mon métier. Donc, c'est une ouverture de poste. Hein, avant, ça n'existe, mon poste n'existait pas. Et pour justement regarder l'humanitaire, mais avec une approche sur les thématiques transversales qui sont
Durable et
l'environnement et le genre. Voilà. Faire quelque chose de durable, apporter une aide de manière durable, de la
qui
manière la
respecte
plus.
l'environnement, etc.
C'est ça, voilà. Donc, il y a du travail à faire en interne, que ce soit au niveau des documents, des procédures d'achat. Ensuite, il y a un travail à faire en externe, que ce soit aussi des projets d'adaptation au changement climatique, beaucoup de sensibilisation au niveau du staff et tout ce qui est du plaidoyer. On fait beaucoup de plaidoyer collectif avec les autres ONG, justement pour demander au gouvernement, aux agences de développement, etc., de nous aider dans cette démarche. Parce que ce n'est pas forcément évident, on n'a pas forcément les outils, les ressources, et en général, ça coûte toujours un peu plus cher, donc on a besoin toujours un peu plus de financement.
Est-ce qu'à travers cette expérience-là, tu penses que tu es dans ton ikigai ou proche ou à 100% par rapport à ce que tu, on va dire, ton dream job, ton job de rêve, est-ce que tu penses que tu y es ou tu es pas loin?
Ce serait super intéressant que je retourne sur mon ikigai d'il y a quelques années et que je regarde où j'en suis. Et je pense que je le ferai. C'est un beau rappel, merci. Mais c'est vrai que je pense que oui, je suis dedans. C'est vraiment un job qui rassemble tout ce que j'aime. Peut-être qu'il n'y a pas autant de aspects ingénierie, mais ouais, c'est ce que je fais, c'est super, je peux aller sur le terrain. Je suis assez satisfaite par rapport à ça.
Bien. Moi, j'avais fait une sorte de formation, ou c'était quoi, une sorte de mini-cours, tu vois, par rapport à ça. Enfin, où il parlait un peu de l'ikigai. Le seul truc qu'il ajoutait par rapport à ça, c'est d'être aligné par rapport à ce que Dieu attend de nous. C'était la chose qui ne te trouve pas dans l'ikigai, parce que c'est quelque chose, on va dire, qui n'est pas lié à la religion, mais du coup, pour ton cas, je pense que c'est aligné aussi. Donc, alhamdoulilah.
Ikigai en japonais, ça veut dire la raison d'être. Et donc oui, c'est vrai que nous, dans notre religion, et puis même, hein, je pense au-delà de ça, on a tous une mission sur Terre. On n'est pas là pour rien, quoi. On peut tous apporter quelque chose à l'humanité par nos compétences, que ce soit un savoir-être, savoir-faire. Et il faut voilà, trouver cette mission de vie et cette raison d'être pour avoir l'impression, en fait, de, à travers le travail qu'on fait, bah, servir Dieu. Et donc, c'est ça, en fait, la ibadat, servir Dieu. Et donc, quand on arrive à ce niveau-là, et que notre travail, ça devient vraiment notre ibadat, bah, je pense que ça se ressent intérieurement, on est aligné et on peut donner notre full potentiel, en fait.
Là, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que c'est un discours, la plupart d'entre nous, on n'est pas habitués. Parce que pour nous, la ibadat, enfin, on se trouve des excuses, entre guillemets, en se disant que on travaille déjà de nourrir sa famille, tout ça, c'est une ibadat, et ce qui est vrai quand tu mets la bonne intention, mais c'est pas une mission en soi, on va dire, c'est une conséquence du travail. Mais c'est vrai que je pense que tu dois avoir une certaine satisfaction à travailler dans un domaine qui, en plus d'être quelque chose que tu aimes, sert à la cause de Dieu.
Ouais, c'est une bénédiction. Et je souhaite à tout le monde de le vivre. Il y en a qui vont le vivre assez jeune, comme moi. Il y en a, c'est au bout de. On parle de la crise de la quarantaine. Ils se disent, oh là là, j'arrête. Faut que je fasse. Il y en a beaucoup, hein, 40-50 ans, qui arrêtent tout et qui retournent labourer les terres ou faire quelque chose qu'ils ont toujours voulu faire. En fait, je pense que inconsciemment, on a des rêves. C'est là. Et c'est juste qu'on n'y croit pas, on se dit non, mais c'est
C'est
pas possible,
impossible.
je peux pas vivre de ça, c'est compliqué, des responsabilités, etc. Mais si on visualise et on se donne vraiment les moyens, en fait, Allah, il facilite, il nous donne les opportunités, mais il faut avoir cette vision lointaine. Si on sait pas où on va, on va se perdre en route. Après, on retrouve toujours notre chemin, mais voilà, c'est combien de temps
On
ça
peut
va
toujours le
prendre?
retrouver, ouais. Et toi, cet aspect vision, tu y réfléchissais déjà depuis un moment?
Ouais, j'ai réfléchi surtout, voilà, quand je te disais, ça m'a pris 3 ans que j'ai arrêté mon premier travail. Moi, déjà avant mon premier travail, je savais que c'était pas ça que
T'avais
je
pas
voulais
spécialement
faire.
de vision, en fait, à ce moment-là. T'avais pas vraiment réfléchi à une vision long terme,
Ouais,
ou peut-être que tu y avais réfléchi, mais ça n'a pas marché.
j'y réfléchissais, mais je trouvais pas. Je me disais, bon, la société dans laquelle on vit, qu'est-ce que je vais faire? Après, moi, et comme j'étais très engagée dans l'associatif, c'est quelque chose que j'aime bien, mais pour moi, c'est en plus. C'est pas le travail. Jusqu'à que je me rende compte que, bah, en fait, dans l'humanitaire, en tout cas, et dans l'associatif, tous les métiers existent. On peut être ingénieur, on peut être docteur, psychologue, comptable. Tous les métiers existent dans l'humanitaire. Donc, et ça, moi, je savais pas. Parce qu'on n'oublie pas. Donc, ouais.
Mais en plus, il y a l'humanitaire, mais en plus de ça, il n'y a pas forcément, enfin, c'est pas forcément limité à l'humanitaire. On voit beaucoup
Ouais.
d'entreprises qui sont rentables et qui sont aussi, où c'est possible de mettre sa pierre à l'édifice et d'aider la communauté. Par exemple, je pense à tout ce qui est finance islamique ou d'autres choses. C'est vrai que l'humanitaire, ça permet aussi de, c'est un aspect qui permet de se rendre utile à beaucoup de niveaux. Mais pour une entreprise classique, c'est aussi possible de se rendre utile.
Oui, clairement, autant mettre ses compétences au service d'une cause en fait qui nous est chère. Voilà. Donc que
Mais en
ce
fait,
soit
c'est,
l'humanitaire
ouais.
ou.
Ce que je me dis, c'est que quand tu travailles dans une entreprise, en fait, tu travailles pour la mission de quelqu'un d'autre, en fait.
Ah oui.
Quoi qu'il arrive, tu vas
Ah.
travailler pour une mission. Soit tu décides laquelle c'est la tienne, soit
Ouais.
c'est celle de quelqu'un d'autre.
Ah oui, moi, c'est ça que moi, je me suis dit quand j'étais en bureau d'études. À un moment, je faisais 60 heures par semaine. Franchement, c'était dur. J'ai eu pas mal de difficultés. Et je me disais, attends, attends, je fais tout ça pour le gars là, assis sur son bureau, sur sa chaise confortable, qui vient nous dire bonjour tous les 1 mois. Il sait même pas comment je m'appelle. Je me suis dit, et c'était pas un trop, trop grand groupe, hein, mais je me suis dit, mais non, si je me casse la tête. Autant que ce soit pour quelque chose, une cause, quoi, mais pas pour enrichir les poches de quelqu'un que je connais même pas. Ça n'avait aucun sens pour moi. Ouais. Le privé, pour moi, c'est.
Est-ce que dans ton entourage, cette vision de la vie, c'est quelque chose qui est partagé dans certains de tes amis ou tes connaissances, ou c'est assez propre à toi ou
Oui, dans mon cercle d'amis, c'est assez partagé. Après. qui se ressemble, ça semble, je pense. Mais pas pour tout le monde. Si je regarde, c'est vrai que je suis plus trop en contact avec mes camarades ingé. Mais si je regarde aujourd'hui, si on regarde qui fait quoi, la majorité ont continué leur cursus, on va dire, de carrière normale. Aujourd'hui, ça fait presque 8 ans qu'ils travaillent dans le même métier, dans la même boîte. Ils ont le salaire qui va avec, etc. Alors que moi, pas du tout, que ce soit au niveau salaire ou au niveau statut. Il y en a certains disent que j'ai régressé. Mais après, est-ce qu'on mesure l'évolution sur la grille salariale ou le statut qu'on a ou sur le métier qu'on fait? Donc, je sais qu'on n'a pas tous la même vision. Moi-même, dans ma famille, j'ai des personnes dans ma famille qui ne comprennent pas. Donc, mais c'est parce qu'on n'a pas la même vision de la vie.
La vision classique, c'est tout le monde la connaît, mais plus ou moins, voilà, c'est faire des études, avoir un travail où tu vis de manière confortable. Une fois que tu as fini tes études, tu te maries, tu
Ta
t'achètes l'étape d'après,
maison,
c'est avoir des enfants et
ouais.
acheter une maison ou un appart.
Ta maison, ta voiture, hop, le classique et la retraite et c'est fini.
Ouais. Et ça, même chez les musulmans, malheureusement, c'est devenu un standard de réussite.
Ouais. Mais ce que je comprends parce que moi, j'en veux pas à la génération de nos parents, vu
Ouais.
que, enfin, moi, c'est mes grands-parents qui ont immigré, mais parce que pour eux, ça a été difficile. Même moi, mes parents, ils ont fait des études, etc. Mais voilà, eux, ils veulent que, peut-être ce qu'eux, ils n'ont pas eu, ils le veulent pour leur enfant. Donc, fais
Ouais.
tes études, travaille, va dans la haute strate de la société et bah, montre-leur que nous, on est là aussi.
Ouais.
Et donc, c'est peut-être pour ça qu'ils nous poussent dans ces métiers. Ingénieur, mon
Ouais.
fils devient docteur et ils sont fiers quand
Ouais.
tu as ta blouse, etc.
Dans CDI.
Et dans ce sens, ouais, dans ce sens-là, pour eux, ils ont de la fierté.
Ouais.
Mais le problème, c'est que nous, c'est pas, ça nous convient pas. C'est un truc qu'on force sur nous. C'est pas pour certains, il n'y a pas de souci parce que c'est leur vision des choses et ça leur va et ils ont la vision un peu carriériste et il y a aucun mal à avoir cette vision-là. Au contraire, c'est bien d'avoir des gens de notre communauté qui font des très belles carrières, qui sont tout là-haut, qui vont prendre des décisions ensuite et qui vont représenter aussi la communauté. On a besoin de ces gens-là, au même titre qu'on a aussi besoin des gens
Ouais,
qui
bien sûr.
vraiment qui ont besoin de se ouais, de s'épanouir dans leur travail.
Pense que c'est assez dangereux parce que, encore une fois, moi j'en veux. Enfin, comme tu l'as dit, c'est ce qu'ont fait nos grands-parents, c'est honorable. Mais du coup, ouais, je pense que ça s'arrête. Enfin, ça, tu le voudras toujours, même si tu as une vie aisée, tu vas vouloir que tes enfants. Tu vas trouver des excuses en te disant que moi je fais pas. Je sacrifie pas mon travail, quoi que ce soit. Parce que je veux payer des études super chères à mes enfants, tu vois. Je pense que c'est quelque chose qui est assez dangereux. Et je pense, hein, c'est une vision personnelle, mais c'est pas vraiment notre objectif sur Terre d'économiser toute sa vie pour payer les études de ses enfants ou une maison, quoi. Ouais.
Ouais, c'est pas évident. Il faut trouver en fait le juste milieu. Mais souvent, quand on fait les choses pour soi et pour Dieu, on est facilité. Il y a beaucoup de manières de devenir riche.
Bien sûr, quand on fait chose pour Dieu, bah ça c'est ouais, le concept de l'ISR aussi, de sustenance, comment on dit, subsistance. Je pense qu'on a une vision qui est, en fait, on s'est fait plus ou moins avoir ou endoctriné par le concept de subsistance, bah, comme il nous a inculqué en fait à l'école, quoi. Il faut travailler, si tu travailles, c'est un diplôme. Faut postuler, faut ci, faut ça, et la subsiste, il faut avoir un CDI, et là c'est bon. Si tu as tout ça, avec le temps qui te reste, essaye de faire deux trois trucs.
Et après, le temps, il passe tellement vite, hein, et on se
Après
retrouve.
voilà, la vie passe en un clin d'œil,
Ouais.
tu arrives à la fin de ta vie et tu te dis, non, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Qu'est-ce que j'ai foutu
Ouais.
de ma vie?
Tu sais, on dit, t'as trois périodes de ta vie. Quand t'es jeune, en fait, il y a trois choses qu'on a. Donc, quand t'es jeune, t'as le temps et l'énergie. mais t'as pas l'argent.
Ouais.
Quand tu es jeune adulte, adulte, on va dire, tu as l'argent, tu as l'énergie, mais tu n'as plus le temps.
Ouais.
Et ensuite,
Ouais.
quand tu es vieux, un peu plus âgé, bah là, tu as l'argent, tu as le temps, mais tu n'as plus l'énergie pour faire les choses. Donc, si on reste comme ça dans le système dans lequel on vit, bah, en fait, du coup, on n'arrive pas à aller au bout de nos rêves et de ce qu'on a vraiment envie de faire. Si on reste comme ça dans cette loupe, ce système en
Spirale.
fait,
Ouais.
cette spirale, et si on sort pas de là, bah au final on profite pas. Et si nous on profite pas et que on peut pas être épanoui, on peut pas avoir une bonne influence et un bel impact, et même je dirais une sadaqa jariya, une legacy sur le monde
Un
qui nous entoure.
héritage, ouais.
Ouais,
Je fais le traducteur, on dirait.
merci.
Ouais. Voilà, je suis d'accord avec toi. Et même par rapport aux enfants, en fait, parce que c'est souvent l'excuse dès qu'on commence à travailler. Ouais, mais les enfants, il faut payer ci, il faut payer ça. Tu sais, on entend souvent, ouais, on est faible en France parce qu'on n'a pas le pouvoir économique, etc. Je suis pas d'accord. Enfin, j'ai changé au début, j'ai pensé à, je croyais un petit peu au début, mais j'y crois plus du tout. J'y crois plus du tout. Je pense que c'est le plus important, c'est plutôt le mindset, l'état d'esprit que tu transmets, l'éducation, l'exemple que tu montres. Ouais, le fait que tes enfants puissent voir en toi que tu es dans une mission pour Dieu et qu'ils comprennent vraiment pourquoi ils sont sur Terre et qu'ils doivent travailler pour ça et pas pour autre chose.
Ouais, clairement.
Ouais, c'est profond. Mais je suis content d'avoir parlé de ce sujet. J'aime beaucoup ce sujet-là. D'ailleurs, je me dis toujours, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas, mais j'hésite, tu vois. Mais vu que toi, tu es à fond dedans, je pense que c'était l'occasion d'en parler. Bah écoute, peut-être qu'il y a une dernière chose sur laquelle on pourrait parler avant de conclure sur les questions de la fin. Tu es aussi active au FEMISO, c'est ça? Qu'est-ce que le FEMISO? Qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est un truc à côté?
Ouais, donc c'est vrai, il y a toute ma vie associative à côté du travail. FEMISO, c'est une fédération, un forum d'organisation, association de jeunes ou étudiants musulmans dans toute l'Europe. Donc aujourd'hui, c'est 31 membres dans plus de 21 pays européens. Et c'est vraiment une plateforme entre les associations donc de jeunes et étudiants musulmans au niveau national et les institutions européennes. On travaille beaucoup avec bah, Conseil de l'Europe, Commission européenne, etc. Et on a quatre piliers. C'est des formations, la représentation des musulmans à l'échelle européenne, le networking, le réseautage, et tout ce qui est campagne. Et donc voilà, sur ces quatre piliers-là, on fait pas mal d'événements, que ce soit des formations sur beaucoup de sujets différents. Hein. On a fait sur le plaidoyer, fait beaucoup sur le plaidoyer, la représentation, plaidoyer environnemental. On a fait aussi des trainings sur la santé mentale. Là, le prochain, c'est sur l'intelligence artificielle. Donc, on vient de fermer notre application call. Et
Candidature,
donc,
on appelle la candidature.
ouais, les appels à candidature. Et donc, il y a beaucoup, ce qu'on fait aussi souvent tous les 2 ans, on ramène une délégation donc de jeunes musulmans européens au Parlement européen, à Strasbourg, pour
Ouais.
justement discuter de toutes ces thématiques. Moi, ça a été un des événements qui m'a complètement fait changer ma perspective. Justement, quand j'avais intégré FEMISO en 2018, j'étais partie donc au HEI, European Youth Event, et
Ouais.
il y avait 8 000, 10 000 jeunes qui étaient venus de l'Europe entière pour discuter du sujet. Et à cette époque-là, il y avait pas mal de panels super intéressants, mais il y avait des panels sur le burkini et je sais pas quoi, et il y avait pas mal de gens aussi d'extrême droite qui venaient. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte, on parlait de nous, mais on n'était pas là. Et franchement, sur les 8 000, il y avait très, très, très peu de musulmans. On était quasiment les seuls. En plus, on avait tous les mêmes t-shirts, etc. Et on voulait être visible pour leur dire, bah, on est là. Et c'était dommage de ne pas avoir plus de musulmans dans ces endroits-là dans ces
Ouais.
institutions, là où les gens prennent des décisions, parce que cet événement, il est mis en place par les parlementaires pour justement avoir les idées des jeunes pour ensuite pouvoir voter et proposer des actions. Donc si nous, on n'est pas là pour faire le plaidoyer, représenter notre voix, et aujourd'hui, on voit au niveau des parlementaires européens, au niveau des pourcentages, t'en comptes pas plus que tes doigts de la main, alors qu'on représente un pourcentage, je
Musulmans,
sais
tu
plus
veux dire.
exactement, ouais, de musulmans en Europe. Donc ça, c'est problématique. Donc nous, le FEMISO rapporte vraiment ce côté institutionnel au niveau des prises de décision, et faire entendre notre voix. Donc nous, on aide des associations qui sont au niveau du local, grassroots, mais on
Ouais.
leur donne aussi une possibilité de s'entreconnaître déjà entre eux. Ça donne plus de force, ça nous inspire plus, et
Ouais.
de porter notre voix à l'échelle européenne.
Trop bien. Et pour participer à cette conférence qui a lieu tous les 2 ans, tu disais, faut
Ouais.
pas appartenir à une association ou c'est n'importe qui peut se
Pas
pointer.
forcément, pas forcément.
Ouais.
Il y a toujours un nombre de places dédiées pour nos membres. Ça, c'est sûr. Mais en général, la plupart de nos événements, hein, que ce soit on appelle ça les study sessions, qui sont organisées avec le Conseil de l'Europe, dans les locaux du Conseil de l'Europe, dans le département de la jeunesse. Il y a toujours des places et c'est ouvert à tous. Il suffit de suivre les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, etc., ou notre site internet, femiso.org, et tout le monde peut y participer. Et je
Et
conseille
non,
vraiment.
ah, d'accord, bah, je mettrai ça en description, Inch'Allah. Mais
Ouais.
à part ça, pour participer à l'événement, je parle sans faire partie du FEMISO. Tu peux pas rentrer comme tu veux
Ah,
dans
si, alors
l'événement.
en fait, ouais, on avait rencontré des gens, bah justement des musulmans qui étaient rentrés via d'autres délégations. En fait, pour rentrer dans cet événement, il faut créer une délégation au nom d'une association. Donc, soit si tu arrives à y aller avec une autre association non musulmane, hein, locale, ou soit toi, tu peux créer ta délégation. C'est pas très compliqué, il faut aller sur le site. Après, bon, ils te demandent quand même des documentations de l'asso, le statut légal, etc. Et après,
Parce
tu
que
peux avoir
l'asso du FEMISO, elle est basée où?
sur Bruxelles.
Bruxelles, ok.
En
D'accord.
fait, on a ouvert l'association donc il y a 26 ans à Bruxelles, et on a un bureau aussi à Bruxelles. Mais comme on vient un peu de plein de pays, on est plus de 70 volontaires, donc on travaille beaucoup en ligne.
Ok. Très bien. Écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions essentielles. On va terminer par quelques questions de la fin.
Question de la
Question de la fin, ouais. À moins que tu aies quelque chose à dire
fin.
avant.
Non, non, non.
Quelle est la compétence ou quelles sont les compétences que tu trouves les plus utiles au travail ou dans la vie de tous les jours? Que tu as. Hein.
Je pense c'est l'aspect intelligence sociale, tout ce qui est humain, et intelligence
OK.
émotionnelle, vu que au final, je pense que au-delà de la technicité, compétences techniques, ce qu'on appelle les hard skills, on parle beaucoup maintenant des soft skills, et je pense que ça, c'est encore plus. Ça change complètement. Si on a ça, après, c'est facile d'apprendre un peu des compétences techniques. Pour moi, c'est hyper important.
D'accord. Quelle est la chose que tu préfères dans ton travail?
Être utile.
Très bien, simple, précis, concis. Quelles sont ou quelle est ta routine préférée? Si tu en as plusieurs, tu peux s'en parler.
Ah, moi, j'aime pas du tout la routine.
Ouais, d'accord.
Ouais.
Tu dois avoir des choses qui reviennent régulièrement dans tes semaines, qui t'aident soit à
Bah,
progresser ou à garder l'énergie ou ce genre de choses.
en ce moment, c'est vrai que bah, quand on travaille, on est presque dans le métro boulot dodo, hein, ce qui est un
Ouais.
peu dangereux. Mais je dirais, on va dire une routine qui n'est pas une routine, mais qui est un peu du travail, du social, c'est-à-dire enfin rencontre avec ses amis, sa famille, une partie pour soi-même, se ressourcer. En général, j'aime bien sortir, voyager ou aller dans la nature. Et Et oui, l'aspect apprentissage, apprendre des nouvelles choses. J'adore apprendre, être curieuse et vraiment apprendre d'autres choses.
Ok. Est-ce que tu as une recommandation de livre, documentaire, quelque chose qui t'a marqué?
J'avais pas préparé ça. En fait, il y en a plein, mais pour retrouver les noms. J'ai une recommandation, c'est peut-être pas un livre, même si enfin, les personnes peuvent lire sur ce sujet, en
Ouais.
tout cas. Déjà, tout ce qui est Ikigai, je conseille de se renseigner sur la chose. Et tout ce
T'as pas de
qui
livre
est.
en... T'as un livre en particulier sur l'ikigai,
Non, je sais plus. Je sais qu'il y en a un qui existe, mais je ne sais plus ce
non?
qu'il
Ouais,
a
je pense,
écrit.
ouais, mais il y en a plusieurs.
Ouais, ça
Ikigai,
doit se
livre,
trouver.
je prendrai le
Ouais.
premier qui vient. Ou bien je mettrai juste Ikigai. Ouais.
Après, tout ce qui est développement personnel,
Ouais.
pour moi, c'est la base. C'est hyper important. D'ailleurs, je sais pas, ça devrait être obligatoire quand on a 17 ans à l'école avant de choisir qu'est-ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai été formée à. Enfin, j'ai fait des séminaires sur l'énéagramme. Donc, c'est 9 types de personnalités, mais après, il en existe plusieurs, des plus simples. Il y a le Insight, le DISC, c'est avec 4 couleurs. Le
Ouais.
MBTI, il est un peu. C'est 16 personnalités, c'est un peu plus compliqué. Mais.
Ouais.
Enfin, moi, je conseille vraiment tout ce qui est développement personnel pour savoir qui on est et comprendre vraiment le monde et qui sont les autres. Et ça, c'est primordial dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail ou que ce soit dans sa vie personnelle. Et moi, ça m'a changé énormément ma vision des choses et mes relations avec, quand je te parlais d'intelligence sociale avant et intelligence émotionnelle. C'est surtout grâce à ça, grâce au développement
Ouais.
personnel.
Donc
Donc je sais
en
qu'il y a
gros,
des livres.
le concept, c'est enfin, déjà travailler sur soi, mais en plus de comprendre un peu les différents types de personnalités des gens, comment aborder les choses, comment les, enfin, comprendre comment les gens réfléchissent,
Ouais.
pourquoi ils réagissent pas pareil que nous, ce genre de choses.
Ouais, exactement. Pour moi, ça, c'est hyper important.
Est-ce que tu as un livre en particulier par rapport à ça ou non?
Je n'ai pas forcément. Juste, des conseils de faire des comment on appelle ça des formulaires où il faut répondre à des questions et on te donne ton type de personnalité. En
Ouais.
général, c'est pas très on répond pas forcément de manière honnête ou c'est pas toujours enfin, en général, c'est mieux de lire et de discuter avec les personnes et je sais qu'il y a pas mal de séminaires je peux donner plusieurs personnes. Moi, je l'avais fait avec Firdaus Motivation. Je sais qu'il y a Myriam Lakdar qui le fait aussi.
Ouais.
Il y a pas mal de personnes du coup qui le font avec cet aspect spirituel et islamique.
Ouais.
Donc ça, je conseille, ils le font des fois même en ligne ou sur pas forcément en France, hein, France, Belgique, etc. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui viennent de partout.
Ouais.
Et du coup, c'est plus intéressant parce que on discute avec les gens. Et donc, on se rend compte en fait de la pluralité des personnes, même s'ils sont le même type, le même numéro, ils sont complètement différents. Et c'est ça de se dire aussi, voilà, il ne faut pas non plus mettre des gens dans des cases ou se dire, moi, je suis dans une case. Ce n'est pas le but, hein. Vraiment, c'est se dire, OK, moi, je comprends pourquoi j'agis comme ça. J'essaye de développer tel aspect, tel autre aspect, voir quels sont mes points faibles et comment les améliorer pour être une
Ouais.
personne la plus complète possible. Même en arabe, on dit l'insan kamel. Et c'est aussi ça notre but. Durant notre vie
Ouais.
et qui nous aidera à accomplir notre mission, parce qu'on ne peut pas accomplir notre mission pour Allah si on ne sait pas qui on est.
Ouais.
Donc voilà.
Très bien, très bien, très bien. Si un auditeur ou une auditrice a une question à te poser ou souhaite suivre ton travail, si tu es visible en ligne, est-ce que c'est possible?
Oui, c'est possible, je serais ravie de répondre à certaines questions, de discuter avec vous. J'ai pas de. Bah sinon sur LinkedIn, je pourrais mettre mon LinkedIn.
Ouais, je le retrouverai, je pense. Enfin, je l'ai déjà, d'ailleurs. C'est comme ça que j'avais contacté, je crois. Très
Ok.
bien. Très bien. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps. On a une discussion très enrichissante pour moi, en tout cas. J'espère pour les auditeurs et les auditrices. Je te remercie beaucoup pour ta disponibilité et je demande à Dieu qui te facilite pour la suite.
Amin Ejma'in, toi aussi, Barakallahu fik Drahman. Et
Ok,
continue
Barakallah.
à faire ce que tu fais.
Je te remercie, et puis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.
Alaykoum salam.
Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à trois personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.